Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par la journée suivie du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président veut défendre la dotation de l'éducation pour augmenter la compétitivité de la nation. Le président ordonne la poursuite de la vaccination contre les épidémies pour prévenir la diphtérie. 2018, l'Agence nationale de protection des consommateurs se concentre sur le secteur du commerce électronique. Les observateurs économiques affirment que la croissance des exportations de 2017 s'améliore. L'annulation de l'avertissement de voyage de la Chine est enfin, les musiciens aident à restaurer le tourisme à Bali. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de gérer les fonds de dotation de l'éducation pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Il a déclaré dans une réunion limitée du cabinet qui a eu lieu au palais de Bogor, Java Occidental, mercredi le 27 décembre, que des fonds de dotation d'éducation devaient être gérés de manière mesurable en commençant par le recrutement des boursières, la sélection des matières pour les boursières et la détermination du pays destinataire des étudiants. En outre, les fonds doivent être utilisés pour le financement de la recherche qui encourage la compétitivité de la nation, notamment dans le contexte des progrès technologiques d'aujourd'hui.
Saya juga minta agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian.
Je demande également que les fonds de la dotation d'éducation soient également utilisés pour financer les recherches qui peuvent améliorer la compétitivité de la nation. Les recherches liées à la nourriture, l'énergie, l'anticipation de la des organisations technologiques, le développement économique, numérique et d'autres recherches productives. La condition est le résultat de la recherche n'entassante dans la bibliothèque. Selon le président Joko Widodo, le fonds de dotation d'éducation doit être en mesure de toucher le secteur de la main-d'œuvre indonésienne. La main-d'œuvre actuelle de l'Indonésie a besoin d'amélioration des compétences. Cela peut être fait par un programme de bourse d'études et la formation professionnelle pour les travailleurs indonésiens. Le fonds de dotation d'éducation est un fonds mis de côté par le ministère des Finances pour le développement de l'éducation indonésienne, généralement utilisé sous la forme de bourse d'études. Le président Joko Widodo a ordonné à son personnel de continuer Outbreak Response Immunisation, à savoir la vaccination aux communautés dans trois provinces, l'ouest de Java, Jakarta et Banten, après avoir reçu le rapport des épidémies de diphtérie en tant que mesure de précaution de la maladie. Il a été dit par la ministre de la Santé, Nila Mulluk, après avoir assisté à une réunion du cabinet pour la prévention de diphtérie. La ministre Nila, après avoir assisté à la réunion du cabinet limité sur la prévention des événements extraordinaires diphtérie au palais présidentiel à Bogor, Java West, mercredi expliquait que la vaccination dans les trois provinces déjà en course d'exécution de 50% et serait continuée jusqu'au début 2018 dans d'autres régions de l'Indonésie où la diphtérie est disséminée.
Presiden sudah, artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan ya ORI, kita lakukan kebersihan juga. Jadi juga misalnya kalau ada yang kena tentu kita semua pakai masker, misalnya seperti itu. Cakupannya kan baru mulai yang untuk 3.
Nous continuons à faire les étapes de manipulation qui ont été faites. C'est ORI. Nous faisons aussi la propreté. Comme par exemple, nous portons un masque. La vaccination a été menée dans 3 provinces. Nous avons couvert 50%. Elle sera continuée dans les autres provinces. La chose importante est la logistique. Le vaccin provient de l'Indonésie, de Biopharma. Nous demandons à la Biopharma de le faire constamment. Commencer ce décembre jusqu'à janvier, nous continuons vers les provinces affectées. Selon la ministre Nila, le gouvernement indonésien a fixé le cas de diphtérie comme l'événement extraordinaire. Elle avait demandé au ministère des Affaires religieuses de participer à la socialisation de l'importance du vaccin contre la diphtérie, car le nombre élevé de victimes dû à la diphtérie. Le développement des technologies numériques comme l'Internet et le commerce électronique affecte grandement les transactions dans le pays. Ardiansyah Parman, président de l'Agence nationale de protection des consommateurs, ou BPKN, a déclaré que le volume des transactions dans le pays et le trafic des marchandises augmentaient plus. Dans la conférence de presse, mercredi le 27 décembre, il a expliqué « Cette condition insiste une mesure concrète pour protéger la sécurité, la santé et la sécurité des consommateurs qui magasinent en ligne. » La dynamique du commerce et de l'économie mondiale qui se développe rapidement doit être traitée avec sagesse et rapidité. À cette fin, en 2018, l'Agence nationale de protection des consommateurs a 9 secteurs qui deviennent la stratégie nationale de protection des consommateurs, dont l'un est le commerce électronique.
Tentu e-commerce ini menjadi perhatian dari BPKN ke depan. Sasarannya.
C'est bien sûr l'e-commerce, c'est l'attention de BPKN à l'avenir. Son objectif est bien sûr de répondre aux attentes des consommateurs. C'est l'objectif comment nous construisons la protection des consommateurs en Indonésie. La question de la protection des consommateurs n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement, mais également de la responsabilité de chacun d'entre nous. Ardiansyah Parman a expliqué que l'Indonésie a besoin de nouvelles réglementations liées au commerce électronique. Selon lui, les réglementations existantes ne tiennent pas compte des derniers développements technologiques. En plus du commerce électronique, l'Agence nationale de protection des consommateurs se concentrait sur l'eau potable, l'énergie, en particulier l'électricité, la santé, la médecine et la nourriture. Le logement et la propriété, le transport et le financement. Ardiansyah Parman a déclaré que sur la base d'une enquête menée par le ministère du Commerce, l'indice de l'autonomisation des consommateurs augmentait à l'échelle nationale. Un économiste, Fadil Hassan, a déclaré que la croissance des exportations en 2017 pourrait devenir la croissance économique d'Indonésie en 2018. Il a déclaré à Radio République Indonésie à Jakarta mercredi. Quand plus d'augmenter les exportations, l'investissement dans le pays devrait également être maintenu. Si nous regardons du côté des exportations et des importations, parce que l'amélioration des prix des produits de base qui sont le pilier de nos exportations a augmenté, les investissements progressent également relativement mieux. Fadil Hassan a ajouté que le gouvernement construit actuellement des infrastructures dans certaines régions dont les résultats peuvent réduire les coûts logistiques pour les investisseurs. La croissance économique d'Indonésie au troisième trimestre de 2017 a été enregistrée à 5,06% sur une base annuelle. Ce chiffre est meilleur que le deuxième trimestre de 2017 qui a été enregistré à 5,01%. L'amélioration de la croissance économique au troisième trimestre de 2017 a été encouragée par l'amélioration des exportations et d'investissements ainsi que par une consommation relativement sourde. L'amélioration des résultats à l'exportation est principalement influencée par l'amélioration des prix des produits de base comme l'huile de palme brute ou CPO et le charbon, ainsi que par l'augmentation de la croissance économique mondiale. Le gouvernement de la résidence Badung, Bali, et les hommes d'affaires du tourisme local a bien accepté l'annulation de l'avertissement de voyage par le gouvernement de la République populaire de Chine. Le chef du bureau de tourisme de Badung, Imad Badra, à Mangupura, mercredi, a apprécié cette annulation de l'avertissement de voyage parce que le gouvernement indonésien a assuré que Bali était sûr de visiter. Et le gouvernement fournit également des garanties en cas de catastrophe causée par l'éruption du Mont Agung en faisant une déclaration de coopération. Il espère, le début janvier 2018, la visite des touristes étrangers à Bali revienne à la normale et durable. L'éruption du Mont Agung influence le secteur du tourisme à Bali. Il a attiré l'attention de musiciens locaux comme Crazy Horse, qui veulent contribuer à la restauration du tourisme sur l'île des Dieux. Le chanteur du groupe légendaire balinais, Benny Sugiharto, a déclaré mardi que les musiciens de Bali avaient le projet de faire un événement spécial pour montrer au monde Bali est très sûr à visiter. Pendant ce temps, le gouverneur de Bali, Made Mangkupastika, a bien accepté les projets des artistes musicaux balinais. Selon lui, l'état de tourisme balinais se rétablit progressivement avec les divers efforts des gouvernements central et local, dont l'ando et la visite directe du président Joko Widodo, ainsi qu'une réunion limitée avec le cabinet de travail à Denpasar il y a quelques temps. Cet événement se déroulera la troisième semaine de janvier 2018. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Regardez l'Indonésie en 2018 ». 2017 ne laisse que 3 jours. La nation indonésienne regarde l'année 2018 qui est pleine de lourds défis, à la fois politiques et économiques, qui pourraient avoir un impact sur d'autres domaines. L'élection générale du chef régional ou Pilkada 2018 aura lieu simultanément dans 171 villes, régions et provinces à travers l'Indonésie. Lors des élections simultanées de 2015 et 2017, le souci des impacts politiques et socio-économiques n'est pas aussi effrayant que ce qui est imaginé. Bien qu'il y ait encore de l'insatisfaction dans diverses régions, mais fonctionne généralement bien. Le président Joko Widodo, dans le cadre de l'arrivée de la nouvelle année, a affirmé que 2018 sera l'année politique. À cette fin, il a rappelé au ministre du cabinet de travail afin de publier une politique en faveur du peuple. Le président espère que les ministres ne feront pas de nouvelles politiques qui n'ont pas été consultées publiquement. Il a également souligné qu'il poursuivra la politique gouvernementale en course. Pendant ce temps, Bambang Brojonegoro, ministre de la Planification du Développement National et responsable de l'Agence de Planification du Développement National, espère que l'Indonésie pourra apprendre d'autres pays tels que le Japon et la Corée du Sud. Face au climat politique, en ce qui concerne l'élection régionale simultanée 2018 et l'élection présidentielle 2019, le ministre Bambang Brojonegoro a déclaré que l'intensité de choses affectera l'économie indonésienne. Selon lui, l'Indonésie n'est pas comme la Corée du Sud et le Japon, bien que le premier ministre ait changé plusieurs fois, il y a une séparation claire entre l'économie et la politique. D'un autre côté, le général Tito Karnavian, chef de la police de la République d'Indonésie, a affirmé que les élections régionales 2018 ne perturberont pas la stabilité économique. La raison, TNI et la police sont prêtes à coopérer pour garantir 2018 et en toute sécurité. Selon le général Tito Karnavian, l'armée et la sécurité indonésienne ont beaucoup d'expérience avec les élections régionales et d'autres élections. On peut dire que le peuple indonésien a commencé de mourir en termes de démocratie. La nation indonésienne devrait maintenant apprendre beaucoup de choses qui se sont passées. La maturité à voir la situation et la conclusion actuelle et plurationalise l'état d'esprit de la société. Apprendre de l'expérience des élections régionales de DKI Jakarta, qui est un baromètre pour la vie politique et des élections Indonésie. Il faut qu'en 2018, tout se déroule bien. Bien que cela soit commencé par une tension assez élevée, mais la maturité et l'intelligence de la communauté à faire des choix et devraient être l'emprise à venir. En outre, avec le soutien de la sécurité, de la police et de TNI et d'autres instruments juridiques, on pense qu'en 2018 ne sera pas coloré par beaucoup de bruit. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 décembre 1908, il y a le plus grand tremblement de terre en Europe. Le plus grand tremblement de terre dans l'histoire de l'Europe a eu lieu dans la Sicile et la Calabre, sud de l'Italie. Plusieurs 100 000 personnes sont mortes dans la catastrophe. La Sicile et la Calabre sont célèbres comme une région sujette au tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a eu lieu à 5h20 dans le sud de l'Italie a une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Le 28 décembre 1949, le premier président de l'Indonésie, Soekarno et sa famille, a transféré la résidence du Palais Yogyakarta au Palais Merdeka. Le Palais Merdeka est la résidence officielle et le bureau du président de l'Indonésie, qui est dans un complexe avec le Palais National et Binagraha. Le palais, avec une superficie d'environ 2400 m², au début de la période de gouvernance de la République d'Indonésie, était devenu un témoin historique de la signature de la reconnaissance de la souveraineté de la République d'Indonésie par le gouvernement des Pays-Bas le 27 décembre 1949. À cette époque, l'Indonésie a été représentée par Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tandis que le royaume néerlandais était représenté par A.S.J. Lovink, autre représentant de la couronne néerlandaise en Indonésie. Le lendemain de la reconnaissance de la souveraineté du royaume des Pays-Bas, le 28 décembre 1949, le président et sa famille est arrivé de Yogyakarta et pour la première fois habité le palais. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie est élu président du comité ASEAN Canberra ». L'Indonésie a confirmé en tant que président du comité de l'ASEAN Canberra, ou CAC, pour la période de janvier jusqu'à juin 2018. Cette inauguration est donnée dans la réunion du CAC au niveau des ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN à Canberra, en Australie, le jeudi 21 décembre. L'ambassadeur d'Indonésie en Australie, Johannes Christiarto Suryolgowo, dans sa déclaration écrite, a dit samedi que le leadership de l'Indonésie dans le CAC reflète la confiance des représentants des pays membres de l'ASEAN en Australie contre la direction de l'Indonésie, notamment dans la réalisation des programmes importants, entre autres le sommet spécial ASEAN-Australie qui aura lieu en Sydney. Selon l'ambassadeur Johannes Christiarto Suryolgowo, le sommet spécial ASEAN-Australie sera assisté par tous les chefs d'État, de gouvernement des pays membres de l'ASEAN et le premier ministre australien Malcolm Turnbull. La mise en œuvre du sommet spécial ASEAN-Australie a reçu une grande attention en ce qui concerne les intérêts stratégiques du gouvernement australien à l'ASEAN en raison du potentiel d'un partenariat dans l'avenir. Johannes Christiarto Suryolgowo a déclaré que la direction de l'Indonésie était non seulement axée sur les relations politiques, mais aussi la coopération économique et de renforcer les relations interpersonnelles. L'Indonésie coordonnera la participation des représentants des pays membres de l'ASEAN sur des événements internationaux en Australie, comme le Festival Multiculturel National ou Canberra Run 2018, ce qui devrait accroître le rôle de l'ASEAN au public en Australie. Cependant, la coopération dans le domaine économique se reflète dans la mise en œuvre du sommet des entreprises et de la conférence sur le PME. Tous les deux visent à renforcer le réseau des milieux d'affaires des pays membres de l'ASEAN. ACC a mené plusieurs grands événements, y compris la célébration de 50 ans de l'ASEAN tenue à Governor House avec le gouverneur général de l'Australie qui a le rôle comme l'hôte. À travers la coopération entre les représentants des pays membres de l'ASEAN à Canberra, y compris les divers programmes socioculturels, le tourisme social et des approches du gouvernement et du Parlement de l'Australie, l'ASEAN devrait être de plus en plus reconnu par le peuple de l'Australie. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de gérer les fonds de dotation de l'éducation pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Il a déclaré dans une réunion limitée du cabinet qui a eu lieu au palais de Bogor, Java Occidental, mercredi le 27 décembre, que des fonds de dotation d'éducation devaient être gérés de manière mesurable en commençant par le recrutement des boursières, la sélection des matières pour les boursières et la détermination du pays destinataire des étudiants. En outre, les fonds doivent être utilisés pour le financement de la recherche qui encourage la compétitivité de la nation, notamment dans le contexte des progrès technologiques d'aujourd'hui.
Saya juga minta agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian.
Je demande également que les fonds de la dotation d'éducation soient également utilisés pour financer les recherches qui peuvent améliorer la compétitivité de la nation. Les recherches liées à la nourriture, l'énergie, l'anticipation de la des organisations technologiques, le développement économique, numérique et d'autres recherches productives. La condition est le résultat de la recherche n'entassante dans la bibliothèque. Selon le président Joko Widodo, le fonds de dotation d'éducation doit être en mesure de toucher le secteur de la main-d'œuvre indonésienne. La main-d'œuvre actuelle de l'Indonésie a besoin d'amélioration des compétences. Cela peut être fait par un programme de bourse d'études et la formation professionnelle pour les travailleurs indonésiens. Le fonds de dotation d'éducation est un fonds mis de côté par le ministère des Finances pour le développement de l'éducation en Indonésie, généralement utilisé sous la forme de bourse d'études. Le président Joko Widodo a ordonné à son personnel de continuer Outbreak Response Immunisation, à savoir la vaccination aux communautés dans trois provinces, l'ouest de Java, Jakarta et Banten, après avoir reçu le rapport des épidémies de diphtérie en tant que mesure de précaution de la maladie. Il a été dit par la ministre de la Santé, Nila Moulouk, après avoir assisté à une réunion du cabinet pour la prévention de diphtérie. La ministre Nila, après avoir assisté à la réunion du cabinet limité sur la prévention des événements extraordinaires diphtérie au palais présidentiel à Bogor, Java West, mercredi expliquait que la vaccination dans les trois provinces, déjà en course d'exécution de 50%, et serait continuée jusqu'au début 2018 dans d'autres régions de l'Indonésie où la diphtérie est disséminée.
Presiden sudah, artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan ya ORI, kita lakukan kebersihan juga. Jadi juga misalnya kalau ada yang kena tentu kita semua pakai masker, misalnya seperti itu. Cakupannya kan baru mulai yang untuk 3.
Nous continuons à faire les étapes de manipulation qui ont été faites. C'est ORI. Nous faisons aussi la propreté. Comme par exemple, nous portons en masque. La vaccination a été menée dans trois provinces. Nous avons couvert 50%. Elle sera continuée dans les autres provinces. La chose importante est la logistique. Le vaccin provient de l'Indonésie, de Biopharma. Nous demandons à la Biopharma de le faire constamment. Commencé ce décembre jusqu'à janvier, nous continuons vers les provinces affectées. Selon la ministre Nila, le gouvernement indonésien a fixé le cas de diphtérie comme l'événement extraordinaire. Elle avait demandé au ministère des Affaires religieuses de participer à la socialisation de l'importance du vaccin contre la diphtérie, car le nombre élevé de victimes dû à la diphtérie. Le développement des technologies numériques comme l'Internet et le commerce électronique affecte grandement les transactions dans le pays. Ardiansyah Parman, président de l'Agence nationale de protection des consommateurs, ou BPKN, a déclaré que le volume des transactions dans le pays et le trafic des marchandises augmentaient plus. Dans la conférence de presse, mercredi le 27 décembre, il a expliqué « Cette condition insiste une mesure concrète pour protéger la sécurité, la santé et la sécurité des consommateurs qui magasinent en ligne. » La dynamique du commerce et de l'économie mondiale qui se développe rapidement doit être traitée avec sagesse et rapidité. À cette fin, en 2018, l'Agence nationale de protection des consommateurs a 9 secteurs qui deviennent la stratégie nationale de protection des consommateurs, dont l'un est le commerce électronique.
Tentu e-commerce ini menjadi perhatian dari BPKN ke depan. Sasarannya.
C'est bien sûr l'e-commerce, c'est l'attention de BPKN à l'avenir. Son objectif est bien sûr de répondre aux attentes des consommateurs. C'est l'objectif comment nous construisons la protection des consommateurs en Indonésie. La question de la protection des consommateurs n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement, mais également de la responsabilité de chacun d'entre nous. Ardiansyah Parman a expliqué que l'Indonésie a besoin de nouvelles réglementations liées au commerce électronique. Selon lui, les réglementations existantes ne tiennent pas compte des derniers développements technologiques. En plus du commerce électronique, l'Agence nationale de protection des consommateurs se concentrait sur l'eau potable, l'énergie, en particulier l'électricité, la santé, la médecine et la nourriture. Le logement et la propriété, le transport et le financement. Ardiansyah Parman a déclaré que sur la base d'une enquête menée par le ministère du Commerce, l'indice de l'autonomisation des consommateurs augmentait à l'échelle nationale. Un économiste, Fadil Hassan, a déclaré que la croissance des exportations en 2017 pourrait devenir la croissance économique d'Indonésie en 2018. Il a déclaré à Radio République Indonésie à Jakarta mercredi. Quand plus d'augmenter les exportations, l'investissement dans le pays devrait également être maintenu. Si nous regardons du côté des exportations et des importations, parce que l'amélioration des prix des produits de base qui sont le pilier de nos exportations a augmenté, les investissements progressent également relativement mieux. Fadil Hassan a ajouté que le gouvernement construit actuellement des infrastructures dans certaines régions dont les résultats peuvent réduire les coûts logistiques pour les investisseurs. La croissance économique d'Indonésie au troisième trimestre de 2017 a été enregistrée à 5,06% sur une base annuelle. Ce chiffre est meilleur que le deuxième trimestre de 2017 qui était enregistré à 5,01%. L'amélioration de la croissance économique au troisième trimestre de 2017 a été encouragée par l'amélioration des exportations et d'investissements ainsi que par une consommation relativement sourde. L'amélioration des résultats à l'exportation est principalement influencée par l'amélioration des prix des produits de base comme l'huile de palme brute ou CPO et le charbon, ainsi que par l'augmentation de la croissance économique mondiale. Le gouvernement de la Résidence Badung, Bali et les hommes d'affaires du tourisme local a bien accepté l'annulation de la avertissement de voyage par le gouvernement de la République populaire de Chine. Le chef du bureau de tourisme de Badung, Imad Badra, à Mangupura, mercredi, a apprécié cette annulation de l'avertissement de voyage parce que le gouvernement indonésien a assuré que Bali était sûr de visiter et le gouvernement fournit également des garanties en cas de catastrophe causée par l'éruption du Mont Agung en faisant une déclaration de coopération. Il espère, le 2 janvier 2018, la visite des touristes étrangers à Bali revienne à la normale et durable. L'éruption du Mont Agung influence le secteur du tourisme à Bali. Il a attiré l'attention de musiciens locaux comme Crazy Horse qui veulent contribuer à la restauration du tourisme sur l'île des Dieux. Le chanteur du groupe légendaire balinais, Benny Sugiharto, a déclaré mardi que les musiciens de Bali avaient le projet de faire un événement spécial pour montrer au monde Bali est très sûr à visiter. Pendant ce temps, le gouverneur de Bali, Made Mangkupastika, a bien accepté les projets des artistes musicaux balinais. Selon lui, l'état de tourisme balinais se rétablit progressivement avec les divers efforts des gouvernements central et local, dont l'ando et la visite directe du président Joko Widodo, ainsi qu'une réunion limitée avec le cabinet de travail à Denpasar il y a quelque temps. Cet événement se déroulera la troisième semaine de janvier 2018. Serviteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et Bahasaku.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Voici la rubrique Magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons voyager à Yogyakarta. Restez toujours avec nous à RRI Service International, la Voix de l'Indonésie. Yogyakarta est célèbre pour le tourisme culturel et aussi ses tourismes naturels. L'un d'entre eux se trouve dans la résidence de Gunung Kidul. Il y a une attraction naturelle où les visiteurs peuvent voir la lumière du ciel du sous-sol. Cet endroit touristique appelé Gua Jomblang ou la grotte de Jombang. Gua Jomblang est l'une des icônes des géoparcs du monde. Parce que depuis 2015, la région du Mont Sewu est désignée par l'UNESCO en tant que nouveau membre du réseau mondial des géoparcs. Mais en réalité, l'exotisme de la grotte de Jomblang a été connu depuis longtemps à l'étranger. Il n'est pas si difficile pour aller à la grotte de Jombang. Si vous allez à Yogyakarta en voiture privée, vous pouvez aller au terminal Semanu et les visiteurs doivent suivre les panneaux de signalisation Wisata Kali Suci. Puis, suivez le signe de la grotte de Jomblang. Pour les visiteurs en utilisant les transports en commun, ils peuvent prendre le bus de la gare Giwangan Yogyakarta vers Wonosari. Continuez avec le minibus à Semanu. À partir du terminal Semanu, les visiteurs peuvent utiliser en ojek, c'est un taxi moto d'environ 20 000 rupiah. L'objet touristique de la grotte de Jomblang est ouvert de 8h jusqu'à 14h heure locale. En fait, il est gratuit d'entrer à Gua Jomblang, mais les visiteurs doivent demander la permission au chef de village avant de commencer vers le bas de la grotte. De plus, vous aurez besoin d'une variété d'outils et de guides. Ainsi, les visiteurs doivent généralement payer environ 450 000 rupiah à 1 million rupiah par personne. Une expérience intéressante sera ressentie par les visiteurs parce que la grotte de Jomblang est différente des autres grottes. Une autre grotte est sur le mur de montagnes et de collines. La grotte de Jomblang a la forme d'un grand trou vertical qui est assez grand. Sa largeur est de 25 mètres et sa profondeur est de 50 mètres. Pour arriver au fond de la grotte, le visiteur doit utiliser un équipement spécial. Après avoir arrivé à la base de la grotte de Jomblang, les visiteurs trouveront une végétation assez luxuriante. Les plantes qui se trouvaient au fond de la grotte autrefois étaient à la surface du sol, mais ont été intégrées dans le processus de la formation de la grotte. À la base de la grotte, les visiteurs peuvent voir la lumière descendre vers le bas de la grotte. Beaucoup l'appellent la lumière du paradis, mais la lumière ne peut être vue qu'à 10h à midi quand le ciel est clair. Le phénomène de lumière de paradis ne peut être trouvé que dans certains endroits du monde, y compris à la grotte de Jomblang. Alors, quand vous visitez cette grotte, n'oubliez pas de capturer la lumière du paradis avec votre meilleur appareil photo. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditeurs, vous écoutez maintenant La Voix d'Indonésie. Bienvenue à La Voix d'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku, comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie. Chers auditeurs, langues régionales sont des langues traditionnelles parlées dans certaines régions ou par des tribus spécifiques. L'Indonésie, en tant que pays riche en diversité, a certainement des certaines des langues régionales. L'Indonésie, qui est si vaste avec une variété de conditions naturelles et de tribus culturelles, rendrait le nombre et la variété des langues régionales très grand.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, bisa lebih dari 700.
En fait, les langues locales en Indonésie sont très nombreuses. Oui, peut-être il y en a plus de 700. Mais selon une étude de cartographie linguistique menée par l'Agence pour le développement linguistique en octobre 2017, 652 langues locales ont été identifiées et validées. Cela est la déclaration de M. Ganjar Harimansa, chef de l'Agence de protection du développement linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, sur le nombre de langues régionales disponibles en Indonésie. La cartographie effectuée par l'Agence pour le développement linguistique ne consiste pas seulement à déterminer le nombre de langues locales en Indonésie, mais aussi à préserver les langues régionales menacées à l'extinction. Après avoir identifié et validé, l'Agence de développement linguistique mène ensuite une étude sur la vitalité des langues régionales. L'étude de la vitalité est faite pour mesurer l'espérance de vie de la langue.
Sejak tahun 2009 sampai 2017 ini kami
De 2009 à 2017, nous avons mené une étude appelée l'étude de la vitalité des langues. Nous mesurons l'espérance de vie de chaque langue de cette région. Puis, à partir des résultats de l'étude de vitalité, nous classons chacune des langues régionales en 6 niveaux. Ce sont éteint, critique ou en voie d'extinction. Le troisième est menacé d'extinction. Le quatrième est en déclin. Le cinquième est stable mais en danger. Et la sixième, catégorie est sûre. Divers efforts ont été faits par l'Agence pour le développement linguistique dans le but de préserver les langues régionales, afin que la disparition et l'extension des langues régionales n'arriveraient jamais. Chers auditeurs, voilà cette édition du programme Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Serviteur, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons de vénitiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous êtes en bonne santé et vous pouvez écouter notre programme musical de la Voix d'Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse, Nia Daniati. Bon, chers auditeurs et auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée « Tasse en verre ». Bonne écoute.
Tidurku
Sejami Nia Daniati kieni a Jakarta le 17 avril 1964 est une chanteuse qui a la voix mélodieuse. Elle a coloré le monde de la musique indonésienne à l'an 1980. À cette époque, l'industrie de la musique indonésienne était animée par les chansons pop mélancoliques, des compositions de Panche Pondaa, Obi Mesah et Rinto Harahap. Le dernier nom était un compositeur qui a popularisé Nia Daniati. Grâce à la chanson intitulée Tas en verre, de la composition de Rinto Harahap, le nom de Nia Daniati est plus populaire au monde de la musique indonésienne. Ensemble avec les autres chanteuses connues indonésiennes comme par exemple Dian Piscesa et Betaria Sonata. Bon, serviteurs, on écoute la chanson suivante intitulée Inui à Cianjur de Nia Daniati. Bonne écoute. Chers amis, la popularité de Nia Daniati est soutenue par ses activités comme l'actrice de film. Elle a pris le rôle dans quelques films et cinéma électronique, entre autres Le Journal, Une baisse d'amour au dessert, Nostalgie au lycéen, Sourire pour maman et Entre lui et moi. En 1991, Nia s'est mariée à Mohamed Hisham, d'origine de Brunei Darussalam, qui s'est terminé par un divorce en 1993. pour remplir sa solitude, il a sorti un album. De 1997 à 1999, il a sorti un album intitulé Cintamu Cinta Apa, Bes Nia Daniati et Mega Pop Intime Volume 3. En 2002, Nia se marie pour la deuxième fois avec un jeune avocat, Farhad Abbas. En septembre 2010, Nia a décidé de revenir à prendre part dans le monde de la musique. Cette fois, Nia a chanté les chansons de la composition de son mari, Farhad Abbas. Bien qu'il ne soit pas un musicien, Farhad a la capacité à composer les 22 chansons avec des thèmes variés. Bon, chers auditeurs, nous terminons notre programme musical ce soir avec deux dernières chansons de Nia Daniati intitulées « Ne pas vouloir comme lui » et « Crépuscule à la frontière de la ville ». Bonne écoute et au revoir. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.